J'ai lu c'est de la l'enfant fantaisie, de poussière là. De...
Rapproche-toi juste un peu. C'est toi qui nous dis, Gabi. Si on...
Est-ce que tu nous entends?
Alors Sam, je t'entends super bien.
Alors rapprochez-vous quand vous parlez du micro, vous le tournez vers
je
vous.
Je peux me rapprocher.
Faut qu'on mange le micro.
Ouais, parce que là je vous entends un peu loin.
D'accord.
On entend ou pas?
T'entends là?
Ouais, je t'entends un petit peu loin aussi.
Moi je suis loin?
Ouais, c'est bizarre.
Est-ce que tu entends?
Oui, je vous entends quand même.
Ok.
Le passé
est passé. Les voix des livres.
Les voix des
Est-ce
livres.
Que ça te va là?
Ouais, là c'est
mieux. Cool. Et les copines.
Ouais, je vous entends moi aussi.
Est-ce que t'as besoin
les
qu'on reteste?
Les voix des livres.
Ouais, là, c'est
quand on mange le micro, ça va.
Ouais, là c'est pas mal.
Et évitez de faire un avec les bonnettes, ouais, hein. c'est pas hygiénique.
On se mouche pas dans la bonnette.
J'ai envie de faire de la ASMR, tu sais, comme ça là.
Alors, bienvenue dans Les Voix des Livres. Aujourd'hui, une capsule super, très variée. Parce qu'on a de l'auteur, de la lectrice, quelqu'un du métier.
On va dire ça comme ça.
Ouais. Est-ce que tu peux présenter tout le monde?
Ouais, je peux faire ça. Je te présente aussi
Oh bah moi c'est Dany, on s'en fiche de moi.
Alors je peux vous présenter J.M. Corrèze, qui est notamment auteur chez Les Moutons Électriques du Chant des Cavalières, un roman de fantasy très remarqué sorti en 2020, quand même.
Très remarqué tout de suite.
Remarqué par un prix ou remarqué?
Pas remarqué par un prix, je crois, mais en même temps c'était 2020, donc c'était le Covid, donc cette année n'existe pas vraiment.
Ouais.
Mais quand même assez remarqué pour publier un deuxième livre dans cet univers qui sort au mois d'août. Sam, tu veux nous dire le titre?
Ah oui, il s'appelle Nous serons l'incendie. Et, voilà.
C'est très beau titre, hein.
Voilà. Mais j'en suis très fière. C'est la meilleure partie du livre.
Et si tu as eu un prix pour ton recueil de nouvelles chez Silex?
Ouais, Férocité.
Férocité.
Ah, je l'ai.
Mais j'ai écrit Muse de la Brèche dedans.
Ça se trouve à peu près où? Parce que j'ai commencé
à la fin.
C'est, c'est une des dernières, je crois que c'est page 324, un truc comme ça. Si je me rappelle là où je faisais mes
page
dédicaces.
Page 324, Férocité.
C'est précis. Ouais.
C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Après, il y a celle d'Emeric.
Voilà. Super compilation de nouvelles avec comme personnage des animaux.
C'est de la fantaisie animalière.
Voilà.
Et dans Mus, c'est une souris qui propose aux autres souris de passer à travers la plaine. Et c'est vachement dangereux parce que forcément, il y a des rapaces qui aiment bien bouffer les petites souris qui se promènent.
Il y a beaucoup d'oiseaux dans cette férocité.
Il y a beaucoup d'oiseaux. Là, les oiseaux sont méchants.
C'est un très très beau livre. Que je vous conseille franchement, il est magnifique et dedans il y a plein de dessins, de choses et de bons talents à venir en plus émergents quoi.
Par contre malheureusement il est épuisé, mais vous pouvez vous rabattre sur les autres publications de Silex qui sont d'aussi bonne qualité.
Il est disponible en format numérique.
Ah oui, en numérique. Voilà. Et sinon,
dommage,
et
je vais
sinon,
lire.
C'est tout, oui.
Et sinon ces nouvelles vous pouvez aussi les lire dans Les Portes de l'Envers de chez Silex aussi. Sur les isekai, donc les passages dans notre monde.
Un monde un peu digital, un peu jeu vidéo.
Ça dépend vidéo. Des nouvelles. Moi, oui, isekai. Clairement, oui. Moi, clairement, c'est ça. C'était. Moi, je vais me faire arrêter par soit Bethesda, soit par Bungie qui font Destiny, parce que clairement, j'ai piqué leurs idées. Donc,
Ah non, mais c'est un genre à part entière.
Non, mais bien sûr. Non, mais c'est parce que mon personnage passe dans un univers de SF qui est très très inspiré de Mass Effect, très inspiré de.
Ouais.
De Destiny, c'est sûr aussi. Donc, voilà, mais...
Depuis Tron, de toute façon, c'est le premier Isekai, Tron, peut-être.
Voilà, un peu. Ouais. Je sais pas s'il y en a eu avant, mais Tron, clairement, c'est
je
un
pense
peu
clairement,
un Isekai.
C'est un Isekai. Donc, pour nos auditeurs, ouais.
Est-ce que.
Parce que Narnia, c'était un peu un Isekai aussi, tu vois.
Narnia, c'est un peu un Isekai.
Ah, j'aurais pas cru, moi. D'accord.
Ils passent techniquement dans un autre monde. Et en plus, ils sont techniquement morts. Genre, dans l'histoire, c'est ça, ils sont morts et ils passent dans l'autre monde et c'est le paradis. Mais bon.
Alice au Pays des Merveilles aussi, c'était.
Un Isekai, bah oui, si on en vient.
C'était dans les exemple.
Est-ce que Gulliver, c'est pas une forme d'isekai, tu vois, que...
Si, je pense aussi.
Genre spirituel.
Un beau débat déjà qui se crée. Alors, après, qui on a à cette
après,
table?
Après, on a Marine qui fait plein de trucs, qui a du coup, qui a sorti un premier livre en auto-édition, Les Contes Merveilleux, récemment. Si tu veux le pitcher, peut-être, je saurais pas le faire.
Alors, c'est un recueil de quatre histoires créées à quatre mains avec une aquarelliste. On a réfléchi ensemble aux histoires qu'on souhaitait partager, qui sont quatre contes initiatiques dans un univers de fantasy. Et j'ai préparé deux premières histoires pendant qu'elle peignait deux aquarelles. Et ensuite, on se les a envoyées et chacune a fait la deuxième moitié de l'autre. Donc c'est une vraie collaboration avec une vraie réciprocité d'inspiration.
C'est un compte Instagram qui c'est Imagine Encre, c'est ça ?
Oui, et du coup, à côté de ça, je suis aussi chroniqueuse sur Imagine Encre, donc sur l'édition indépendante, auto-édition et petite maison d'édition. Et je travaille en freelance à différents niveaux de la chaîne de livres.
Ouais, ce week-end, tu es aux Intergalactiques parce que tu fais partie de la programmation jeune public, c'est ça ?
C'est ça. Je propose une animation qui s'appelle Les Contes Accueillir, qui mêle théâtre d'improvisation, livre dont vous êtes le héros, et contes. Comme son nom ça l'indique.
Est-ce qu'il y a un jeune public qui vient aux Intergalactiques justement pour cet atelier, tu sais déjà Est-ce qu'il n'est pas encore arrivé au moment où on se parle?
C'est la première année où ils proposent cette programmation jeune public et j'ai pas posé la question.
Ouais. Tu sais pas par rapport à leur gars s'ils ont...
Je sais qu'il y a eu quelques inscriptions mais que toutes les places sont pas encore prises.
D'accord. Ben, c'est cool. Et c'est pas fini, on a encore quelqu'un en plus, une lectrice. C'est important.
On a Lana. Donc, qui est lectrice, mais pas que, elle est aussi maître de jeux de rôle. Plein d'autres activités, elle est traductrice.
Et maître de jeux de rôle, c'est auteur, hein, peu quand même.
Parce que non seulement tu maîtrises du jeu de rôle, mais t'as créé le tien aussi, si je dis pas de bêtises.
Mais comment t'es au courant?
Ah, c'est chaud! Camille, je savais qu'il me fallait.
Mais j'écoute quand les gens parlent. Non, c'est toi qui m'en as parlé, c'est juste que t'as dû oublier que tu m'en as parlé.
Oui. J'ai créé un jeu de rôle qui s'appelle Équilibre, qui raconte dans le monde contemporain l'action de Fae, donc de personnages plutôt type fantasy dans le monde contemporain et leur coexistence et non-coexistence, parce qu'ils se font une guerre et les joueurs peuvent jouer l'un ou l'autre ou une toute autre faction.
Combien de campagnes tu as déjà organisées pour tester ton jeu ?
De campagne, aucune, mais je l'ai testé dans pas mal de festivals de jeux de rôle, principalement à Mont-de-Marsan, à Plaisance-du-Gers et à Bordeaux.
Cool. Honnêtement, qu'est-ce que t'en penses, toi, Gabi ? Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent du jeu de rôle,
exactement.
Même dans le thriller, même partout, d'ailleurs. Et c'est être auteur quand même, tu fais du world building et tu prévois un peu... Bon, les joueurs créent un petit peu l'inattendu, mais... Pas tant que ça, peut-être, quelque part, non ?
Si, les joueurs y créent tout. Le nombre de fois où je suis arrivée dans une partie en tant que maître de jeu en ayant quelques noms de PNJ et une ligne d'introduction, et après je me suis contentée de les laisser faire, et ils n'ont pas eu besoin véritablement de moi, d'un certain point de vue. Les joueurs peuvent faire énormément. Le maître de jeu peut faire énormément, bien sûr, mais selon la manière dont on fait jouer...
Mais il y a le début et la fin, quand même. Il y a une quête. Quelque part, il y a un but, un objectif dans le jeu de rôle ou c'est open world ?
Ça dépend comment on le joue. Dans mon expérience, c'est très rare qu'on arrive à faire une fin de scénario parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à raconter, toujours quelque chose que les joueurs veulent explorer de plus. Donc,
auquel tu t'attends pas.
On ne s'attend jamais à ce que les joueurs font.
Et c'est ça qui est exaltant dans le rôle de maître de jeu ?
C'est génial, c'est épuisant, c'est vraiment lessivant, surtout quand on fait des très longues parties, parce qu'il faut constamment être à fond, constamment entraîner les joueurs, constamment s'assurer que eux-mêmes ne partent pas trop loin. mais c'est vraiment hyper intéressant, d'autant que, surtout quand on crée son propre jeu de rôle, c'est aussi très intéressant de faire jouer d'autres personnes qui connaissent, qui ne connaissent pas forcément, qui me connaissent moi ou qui ne me connaissent pas. Parce que du coup en fait le nombre de fois où eux ils ont des idées que je peux noter et amplifier derrière j'avais pas pensé
session.
Ça ouais.
Parce que ça se déroule sur plusieurs sessions normalement, non? Ou tu fais vraiment des one shot
Ça dépend, faire des one shot en une session et je peux faire plusieurs sessions.
Ça prend du temps.
Oui.
Mais combien de temps pour créer ton jeu de rôle, ça t'a pris?
12 ans, 13 ans.
Ah ouais.
Un truc de style.
Ah classe, t'en rêves quoi un peu, non?
Non, enfin c'est juste que c'est un projet qu'on mature. Quand j'étais plus jeune, je le faisais jouer, mais c'était vraiment brouillon. Et puis au fur et à mesure, j'ai réfléchi, ça a commencé à s'étoffer, ça a commencé à prendre plus une dimension noir et blanc, mais vraiment une dimension de factions qui s'opposent avec des idéaux, mais également du coup des points identiques et du coup ouais.
Si j'avais le talent de certains de mes amis, je pourrais en faire un roman, mais n'ayant pas le talent, voilà, je me contente d'être le maître de jeu.
J'ai une dernière question, enfin une interrogation d'un vieux mâle blanc parti du problème. Souvent, le jeu de rôle, on voit des gamins, mais souvent, ou des hommes mûrs, barbus, machin, et toi, t'es une jeune femme, et c'est une connerie de dire que seuls les mecs, voilà, avec leur pizza et leur bière, jouent au jeu de rôle.
Alors,
j'ai tort ?
La plupart de mes potes qui jouent au jeu de rôle sont d'âge, de type, de race, de tout diversifié.
De genre, ouais.
Les personnes avec qui je joue le plus en ce moment, ce sont mes élèves de lycée. Ah. On a fait un club de jeux de rôle et donc ils ont tous entre 16 et 18 ans et ils sont tous...
Oh là là, la super prof, on aurait rêvé
tous
d'avoir ça.
Tous entièrement différents.
On n'aurait pas rêvé d'avoir tout ça, non, franchement.
Si.
Ouais, super. Ah. Gabi,
alors, ça va? Je me présente, je sais pas parce que je fais.
Non, mais je pense que t'as envie de dire, honnêtement.
Non, parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé pendant 2 ans chez ActuSF où je faisais pas mal de choses. Je faisais notamment les salons et c'est pour ça que j'ai croisé un certain nombre de gens et que vous avez peut-être déjà vu ma tête. J'ai aussi fait partie de l'équipe de Fantastic Queer qui est donc un site internet et des réseaux sociaux qui recensent les littératures de l'imaginaire queer, parce qu'il y avait un truc qui m'énervait, c'est qu'on disait souvent que ça n'existait pas en France et que seuls les Américains savaient faire ça, et comme d'habitude à chaque fois qu'on dit que seuls les Américains savent faire un truc, c'est toujours des bêtises. En France aussi on a plein de littérature queer, notamment aux Intergalactiques, il y a pas mal d'auteurs qui sont invités.
C'est très inclusif, aux Utos aussi quand même.
Ouais, aux Utos aussi. Les Intergalactiques, il y a vraiment une vibe particulière. Notamment grâce à la directrice artistique et littéraire, enfin de la partie littéraire, Anne Canoville, qui invite toujours des gens hyper intéressants. Et cette année, par exemple, on a Sabrina Calvo, Saul Pandelakis, qui sont vraiment des figures un peu emblématiques de cette littérature francophone queer. Et puis, qui n'est pas invité, mais J.M. Corrèze aussi. mais qui vient. Donc,
même quand on m'invite pas, je viens.
L'année prochaine. Il y a aussi Naël Legrand aussi, j'y pense, aussi, qui est invité cette année pour la première. Enfin, voilà, qui, pareil, fait de la fantasy queer et qui. Et c'est son premier festival en tant qu'invité, et c'est aux Intergalactiques, et je trouve que c'est pas un hasard, parce que c'est vraiment un endroit où j'ai toujours trouvé que cette littérature était très libre d'exister. C'est là où on a fait les premières tables rondes de Fantastic Queer, c'est là où on m'a donné le plus de liberté d'organiser, parce que c'était pas genre juste « alors qu'est-ce que ça fait d'écrire de la littérature queer ?» C'était « ok, en fait, en tant qu'auteur et autrice queer, de quoi vous avez envie de parler, de quel sujet vous avez envie de parler ?» Et la première année, par exemple, on a parlé de communauté, d'entraide et de solidarité avec un angle queer, mais en fait c'était pas voilà. Donc
c'est à la limite, j'ai envie de dire, c'est des trucs qu'on devrait se poser, qu'on soit queer ou pas.
Oui, voilà, c'est il voilà. Y a un éclairage qui vient de ce vécu queer qui est particulier, oui. Mais c'est des questions qui sont transversales, et enfin je veux dire, en tant que personne queer, on vit pas dans une petite bulle qui est isolée du reste du monde, et enfin en tout cas c'est pas le but, et du coup c'est un des trucs que j'aime beaucoup aux Intergalactiques, c'est qu'il y a cette possibilité de dialogue et on nous laisse parler de ce qu'on veut et ne pas nous enfermer dans la case où on voudrait qu'on soit, parce que je vais citer notamment Katie Stewart, qui est une amie, mais il n'y a rien de plus agaçant que de devoir jouer le rôle perpétuellement de « Ok, je suis là, je suis le quota de mec trans. Bonjour, je suis là, je suis la femme noire. Et bonjour, je suis là, je suis autre... Enfin, je sais pas, le mec handicapé. » Voilà. Ouais. Et je trouve que vraiment, Intergalactique, c'est un des points que j'aime énormément dans ce festival. Et c'est un de mes festivals préférés en France, très clairement. C'est, il y a une vraie volonté de dialogue, il y a une vraie curiosité intellectuelle et littéraire, et c'est en grande partie grâce à Anne Canoville, que je salue grandement, parce qu'elle fait un travail absolument extraordinaire.
Et c'est une safe place aussi, quelque part aussi.
Aussi, oui, ouais. C'est un truc incroyable. Moi, j'ai un souvenir assez rigolo de 2022, si je dis pas de bêtises, des Intergalactiques, où je retrouvais un éditeur que je ne citerai pas, mais qui était un mec 6-7 blanc de 50 piges, et vraiment, il s'est senti en minorité, je pense, pour la première fois. Il avait vraiment l'air très mal à l'aise, en mode, mon Dieu, mais où suis-je ? Je suis le mec bizarre, en fait. Je suis la personne qui sort de la norme ici. Je suis la personne qu'on regarde bizarrement. Je n'aime pas cette expérience. Et du coup, c'était assez rigolo de sentir puissant, en fait, et en force face à des gens avec qui, normalement, on est en minorité et avec qui il faut... on va dire faire preuve de diplomatie et louvoyer un petit peu parce qu'il faut qu'on se sent obligé de se faire accepter. Et là, c'était lui qui devait un peu montrer patte blanche et se faire accepter. C'était assez rigolo. Et c'est, il n'y a qu'aux intergalactiques que ça arrive.
Ah, moi, j'ai ressenti ça honnêtement aux Utopiales.
Ouais.
Mon premier Utopial, j'ai vu cet foisonnement de diversité, tout ça. Et puis moi, qui suis pas un familier, enfin qui n'était pas un familier avant Manaï Plasma des festivals, mais par contre, je le vis très bien. Je veux dire, je vis dans une société de toutes les couleurs. Et pour moi, à la limite, d'être regardé comme l'alien, à la limite, c'est plutôt rigolo. Je le vis bien, honnêtement. Hein, honnêtement. Mais bon, j'ai jamais dominé personne, donc j'ai pas de derrière.
Mais en tout cas, c'était un éditeur parisien. En plus,
voilà,
qui avait l'habitude,
là, il y avait quand même lui, il avait des casseroles,
peut-être.
Ouais. C'est autre chose. Est-ce que ton œuvre, Sam, c'est Sam, hein, je dis pas de conneries, hein. Sam, est-ce que ton œuvre, tu peux pitcher ? Après, on fera juste un petit tour avec Marine, parce que Marine a quelque chose de super intéressant au niveau de son travail qui m'intéresse dans les voix des livres. Et Sam, par contre, bah, écoute, je te découvre, hein, moi je t'ai pas lu, je suis désolé.
Il n'y a pas de souci.
Il y a des gens, mais en tout cas, j'aurais plaisir à te lire. Alors. Hein, tout le monde opine de la tête.
C'est vachement bien son livre.
Allez, génial. go pitch.
Je m'entoure que de gens qui aiment ce que je fais, comme ça je me sens toujours validée. Alors celui qui est déjà sorti, Le Chant des Cavalières, qui est sorti en 2020, une semaine avant le confinement, pour faire les choses dans l'ordre, c'est l'histoire, comment le résumer, c'est le plus difficile. C'est l'histoire d'un ordre de cavalières qui chevauchent des dragons et qui sont à la fois des figures religieuses et militaires dans un petit royaume qui vit dans l'ombre de son puissant voisin d'empire. Et elles vont il y a plusieurs courants qui traversent ces cavalières et elles vont toutes chercher à leur façon à atteindre le pouvoir afin de réaliser ce qu'elles considèrent, et c'est chacune une vision différente des choses, le destin de ce pays. Et le personnage un peu principal de l'histoire, Sophie, va se retrouver entremêlée dans ces manipulations diverses et variées, puisque chacune du coup va chercher à l'attirer dans ses filets afin de se servir de la figure qu'elle est censée devenir pour avancer son projet. Voilà. Et Nous serons l'incendie, qui va sortir cet été, fin août 2024. C'est un tome unique, donc il y a pas besoin d'avoir lu l'un pour lire l'autre, mais ça se passe après, et donc je sais pas si ça se considère comme du spoiler un peu, mais pour moi c'est vraiment des histoires différentes, donc ça se passe après une guerre où le dit petit royaume a perdu et est colonisé par son voisin, et en fait on va suivre les efforts de différentes forces de résistance pour se débarrasser de cet envahisseur colonialiste qui cherche à effacer leur culture et leur existence. Voilà.
Et le côté religieux, tu as parlé du côté religieux, alors déjà il y a le côté religieux, comment on peut être martial et religieux en même temps ? C'est parce qu'il y a une croisade, qu'est-ce qui fait qu'ils sont...
Elles sont en fait à la fois un bras armé du royaume et en fait l'ordre religieux. Elles sont les prêtresses de la religion principale de Sarda. Du coup, le royaume s'appelle Sarda, qui est une religion, j'ai envie de dire féminine, mais bon, parce qu'elles ont une déesse qu'elles appellent la Dame. Et elles sont en fait à la fois elles vivent à la fois dans des citadelles en tant que guerrières, et en même temps il y en a des individuels qui vivent dans des chapelles et dans des dans les villages, dans les villes, en tant comme leader religieux de la religion nationale, quoi, on va dire.
C'est une société matriarcale, on est d'accord ?
Alors je sais pas si on peut l'appeler matriarcale, puisque les sociétés matriarcales sont pas des sociétés patriarcales inversées.
Non.
C'est au moins matrilinéaire, ça c'est certain. Et effectivement, c'est plutôt les personnages féminins qui sont au pouvoir, puisque du coup j'avais écrit le Chant des Cavalières parce que je voulais un peu l'inverse de la fantaisie de Daron, avec que des couillus qui partent en guerre. Donc,
et puis c'est des dragons, c'est pas des darons.
Là c'est des dragons en plus. Et en fait il y a deux personnages masculins, trois personnages masculins qui ont un petit peu d'importance dans le Chant des Cavalières et qui sont très secondaires. L'important c'est de suivre, enfin les accords sont faits au féminin au maximum aussi. Dans Nous serons l'incendie, c'est même pire, j'ai envie de dire. J'ai vraiment tout mis au féminin. Et ce sera un peu... Enfin, j'avais eu un retour sur le Chant des Cavalières de quelqu'un qui disait « Mais je comprends pas où sont les hommes et quel est leur royaume ?» Et je me suis dit que vraiment, il y avait besoin d'écrire ce livre donc, puisque personne s'est jamais posé la question en lisant, je sais pas... Alors, un livre que j'adore par ailleurs, mais « Les Sentiers des Astres » de Stéphane Plateau, il y a une seule meuf, personne se dit « Mais où est la gabarde pleine de meufs qui est en train de remonter elle aussi le fleuve ?» On imagine bien qu'il y a que des mecs parce qu'il y a que des mecs. Et bien là, c'est pareil, mais il y a que des meufs. Voilà. Et majoritairement, tout le monde est queer aussi. Il n'y a pas d'hétéros.
Il n'y a pas d'hétéro du tout.
Il n'y a pas de personne. Si, il y a des personnes hétéros, mais elles ne sont pas cis dans ce cas-là. Personne n'est cis et hétéro. Voilà, désolé.
Non, bah pourquoi ? Ah non, alors voilà, tu gâches tout. Tu gâches tout, tu dis désolé. Je coupe rien, ça c'est
un message. Un désolé sans sincérité.
Ah ouais, avec une petite pointe de sarcasme. Ben, dis donc, on est en appétit, hein, pour des gens comme moi qui vont être balancés et puis qui vont. Voilà,
Je pense que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Enfin, ouais, j'espère qu'il est d'une qualité qui fait que c'est littérairement.
Bon, littérairement,
il est attirant pour tout le monde et qu'on s'y retrouve tous.
Et t'as eu beaucoup de retours de lecteurs et lectrices?
Alors j'en ai eu un certain nombre. J'ai découvert extrêmement récemment, genre la semaine dernière, que si je vais sur le site de mon éditeur et que je regarde la revue de presse, j'ai que les trucs positifs et que du coup j'ai pas besoin de faire le tri moi-même. Donc 4 ans après sa sortie, je découvre les choses positives que les gens ont dit, puisque j'ai très vite arrêté de lire les retours, parce que si j'en lis un négatif, après je suis déprimée.
Ah, il y a sur Babelio, je crois, où on voit
c'est
des...
C'est ça, voilà,
des...
donc je ne vais pas là.
Tu vas pas chez
mais
Babelio.
Mais je vais sur la revue de presse de mon éditeur qui, du coup, a sélectionné les positifs. Comme
ouais,
ça, je n'ai que le mieux.
C'est la presse, c'est plus les...
Mais c'est aussi des... Bah oui, c'est de la presse, et c'est... mais il y a aussi des extraits de blogs sur Insta ou des gens qui ont des blogs de cours. Donc, que je trouvais un peu moins élitiste, on va dire.
Voilà. Et Marine, tu l'as... Oui, c'est pas de l'indépendant, parce que toi, tu chroniques... beaucoup d'indépendants. Est-ce que tu as chroniqué les Cavalières? Ah, tu l'as pas encore lu. D'accord. Mais tu l'as pas encore lu, mais tu en lis beaucoup, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ton travail, c'est pas ton travail principal, j'imagine, mais c'est la bêta lecture professionnelle. Et ça, c'est super intéressant. Et sans vouloir tout le background, tout ça, au bout d'un moment, tu lis très vite, tu as une capacité à lire très très vite, fabuleux, qu'on te jalouse tous. Et on bouge tous la tête. Elle arrive à lire un bouquin de 600 pages en une journée, et encore à plus que le lire. Et donc cette capacité que tu as, tu l'as mis à bénévolement dans un premier temps pour des autorices, et au bout d'un moment, tu as vu que quand même avec... ton cursus et tout ça, tu pouvais fournir une prestation payante. Et ça, c'est très important pour les autoristes de savoir qu'il y a des gens comme toi qui existent et qui peuvent leur fournir des aides énormes pour une publication future. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe, ce que tu proposes
Alors effectivement, en termes de parcours, ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai démarré bénévolement un peu par hasard. Parce que j'ai commencé comme chroniqueuse, j'ai rencontré des auteurs sur un salon, et quelques jours après j'ai vu passer un appel à bêta lecteur ou bêta lectrice sur les réseaux sociaux. J'ai candidaté en me disant sur un malentendu ça passe, sur un premier malentendu c'est passé, et c'est passé tellement bien que juste derrière on m'a dit j'en ai d'autres. Donc voilà. Donc ça a commencé comme ça, bénévolement. Je savais même pas que ça pouvait être autre chose que bénévole. Et puis de fil en aiguille, on m'a proposé de le faire pas bénévolement, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça que c'est devenu une activité non bénévole. Mais moi je fonctionne du coup principalement sur les littératures de l'imaginaire, en particulier sur la fantasy, et pas du tout sur la science-fiction. Et un peu sur ce qui va être fantastique, polar et thriller. Après, c'est...
C'est déjà large, hein. C'est un sacré spectre pour travailler.
Je fais pas les récits de vie. Et je reste sur du récit de fiction. Après, ça dépend aussi de la rencontre avec l'auteur ou l'autrice. On échange au début pour vérifier d'une part leurs attentes, d'autre part ce que moi je peux faire et vérifier que ça coïncide. L'idée n'est pas de partir sur quelque chose qui sera insatisfaisant d'un côté ou de l'autre. Et si c'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Soit je renvoie vers des gens que je connais, soit je.
Vous êtes une communauté de bêta lecteurs professionnels. Il y a une sorte de d'écosystème quelque part.
J'irai pas jusqu'à dire communauté, mais je connais des gens qui en font professionnellement. Donc je connais des gens ou des sites vers lesquels rediriger. Et si c'est pas avec moi ou si c'est pas avec ces personnes-là, je me dis que ces personnes-là auront peut-être quelqu'un d'autre à recommander. Donc voilà, l'idée c'est de trouver la solution qui correspond.
Les choses que tu fais pas, ça s'annule. Nous on veut savoir ce que tu fais. Tu m'as dit que tu proposais différents niveaux de bêta lecture.
C'est ça.
Et on va attaquer direct sur le pack premium de luxe.
Alors moi je l'appelle pas premium de luxe.
Non c'est moi, c'est une bêtise, excuse-moi si je te mets mal à l'aise.
Non c'est plus des niveaux de détail.
Ouais.
Dans la bêta lecture. Donc moi je propose trois niveaux, un niveau global, un niveau chapitré et un niveau annoté. Le niveau annoté, il faut visiblement être bien accroché parce que j'annote toutes les lignes.
Toutes les lignes, vous imaginez ?
Bon, toutes les phrases, allez, j'accepte. Voilà, et c'est des annotations qui vont du caractère du personnage à la tournure de la phrase en passant par l'ambiance, l'atmosphère ou le ressenti de lecture et de lectrice.
Et donc, déjà le premier chapitre, tu l'analyses fortement, ça dans toutes les formules que tu proposes.
C'est ça. Quel que soit le niveau de détail, je fais une analyse du premier chapitre, notamment sur, à l'issue de ce premier chapitre, ou prologue plus premier chapitre, qu'est-ce que je perçois de l'univers, qu'est-ce que je perçois des personnages, à quoi je m'attends pour la suite, est-ce que j'accroche ou est-ce que j'accroche pas.
Et tu fais une fiche pour chaque personnage, ça c'est intéressant. Mais s'ils ne sont pas dans le premier chapitre, comment ça se passe ?
Non, alors ça c'est à l'issue de la... Le reste de la fiche est fait à l'issue de la lecture du livre.
D'accord, ok. Tu fais ça, et selon ce que l'auteurice te propose, ou ce qu'il accepte comme validation du prix de la prestation, tu fais la totale ou tu fais partiellement. Mais c'est intéressant ça. Et t'en as fait combien ça fait combien d'années que tu fais ça ?
Bénévolement, ça fait depuis 2018. Et j'ai dû en faire une demi-douzaine avant de commencer à être rémunérée. Et rémunérée, j'en dois être à une dizaine.
Ah, c'est pas mal, hein. Et tu as travaillé aussi pour des petites maisons d'édition indépendantes ou d'auto-édition, comment tu passes ?
C'est ça, pour le moment j'ai fait principalement pour des petites maisons d'édition et des auteurs auto-édités. Et puis j'ai co-dirigé trois appels à texte aussi, mais c'est un peu différent de la bêta lecture.
Oui, mais quand même, tu travailles activement pour aider les gens à fournir à un éditeur ou à s'auto-éditer correctement et à trouver leur public. Et en même temps, tu chroniques, est-ce que c'est arrivé de chroniquer quelque chose dont tu avais fait la bêta lecture ?
Oui.
Ouais ? Et ça s'est bien passé ? Est-ce que l'auteur systématiquement applique tes prérogatives ou tes conseils ou tes suggestions, je ne sais pas comment l'appeler ça.
Alors, je ne suis pas, je ne sais pas quel adjectif utiliser. Donc, quand je lis la version définitive du livre pour le chroniquer, je ne reprends pas mes annotations à côté pour savoir s'il a bien fait ce que j'avais dit.
Oui, ce serait.
Parce que mon rôle, c'est pas de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse.
C'est important, ça.
Enfin, la manière dont moi je me positionne, après chacun fait comme il veut, la manière dont moi je me positionne, c'est d'argumenter en retour. Ouais. Donc j'argumente à quel moment j'ai accroché, à quel moment j'ai décroché, pourquoi, comment je perçois les personnages et pourquoi, soit avec des citations, soit avec des extraits à la pluie. J'argumente les relations entre les personnages, est-ce que à mes yeux ça sonne juste ou est-ce qu'il y a des moments où on nous dit qu'ils sont super copains et on les sent jamais complices,
ou qu'ils sont père et fille par exemple et on ne sent pas le background éventuellement qui fait qu'ils ont des interactions qui sont plutôt étranges quoi. Ouais.
Bah, étranges ou qu'on
ne comprend pas, qu'on ressent pas.
Je n'aurais pas de titre, mais du coup il y a, pour reprendre l'exemple dont tu parles, il y a eu effectivement une relation père-fille. Où moi, j'arrivais plus à savoir si ils étaient encore complices, s'ils l'avaient été, si c'était disputé ou pas, si elle était encore en lien avec sa famille ou pas. Et donc ça, c'est un des retours que j'ai fait à la personne qui avait écrit le livre, de lui dire, leur relation, je la comprends pas.
Ouais. Ah, c'est intéressant, hein. Vous avez travaillé chez ActuSF avec des bêta lecteurs ou vous faisiez tout, vous ne pouviez pas faire tout vous-même?
Donc en fait nous on travaillait, alors il y a plusieurs niveaux et je, en fait l'avantage d'une petite maison d'édition, enfin c'était quand même une maison d'édition indépendante, donc on avait la chance de pouvoir travailler assez près des auteurs et de discuter avec eux, surtout quand tu passes des longs salons avec eux et que après tu passes tu vas au resto et après tu traînes, tu vas boire des bières, et du coup il y en a, c'est des amis hein, maintenant, et il y en a c'était même des amis avant, c'était un peu rigolo, c'était un petit monde de l'imaginaire. Et je sais que j'ai pas mal d'auteurs et d'autrices qui bossent avec des bêta lecteurs et des bêta lectrices avant. Souvent, c'est du travail bénévole dans le sens où ils s'échangent des bêta lectures. C'est je lis ton livre et tu lis mon livre et on se fait des retours mutuellement. Voilà. Après, il y a aussi, et du coup c'est très ça, hein, c'est très, voilà, je te dis ce que moi j'ai ressenti, comment j'ai vu le truc, et un des trucs qu'on dit c'est que les bêta lecteurs ils ont toujours raison quand ils soulèvent les problèmes, ils ont toujours tort quand ils proposent des solutions. Donc souvent les bêta lecteurs expérimentés, et de ce que j'entends de Marine c'est exactement le cas, c'est vraiment dire ce qu'on a pensé. Par exemple, je trouve ce personnage insupportable, mais peut-être que c'était le but de l'auteur que le personnage soit insupportable à ce moment-là. C'est pas le but du bêta lecteur d'aller dire « Eh bien, je pense que pour le rendre plus supportable, tu devrais faire ça, ou elle devrait parler comme ça, ou ceci. » C'est vraiment genre juste, je la trouve pénible, parce que là, elle dit ça, et après, elle dit ça, je trouve qu'elle se contredit, et peut-être que c'était le but de l'auteur, peut-être pas. Et après, c'est à l'auteur de se débrouiller avec ça. Par contre, après, il y a un autre niveau de travail en maison d'édition, c'est effectivement le travail avec le directeur éditorial ou le directeur d'ouvrage. Chez ActuSF, c'était par exemple Gaël Giroulet ou Zoé Laboret, qui vont prendre le texte. Enfin, ça, c'était nos deux principales, mais on en avait d'autres en freelance, je vais éviter de les citer parce que je vais en oublier ça.
Oui, non, voilà. Je ne
peux pas vexer des gens, mais elle faisait aussi du boulot super. C'est beaucoup de femmes, hein, mais elle faisait aussi du boulot assez génial. Et qui vont effectivement prendre le texte avec l'auteur et en général en se mettant d'accord à la base sur dans quelle direction on va, mais qui vont effectivement là avoir un travail un peu plus intensif qui se base souvent sur...
Oula, attends, juste, il y a un hélicoptère qui passe, je suis pas sûr qu'on entende encore grand chose. C'est toi qui peux me dire, c'est toi qui monitor.
Non, on n'entend pas grand chose là.
Ah ouais, ils sont très directionnels les micros, mais on ne sait jamais. Je m'en voudrais de manquer le propos. Vas-y, ouais, je t'en prie.
Et du coup, le directeur d'ouvrage, il va faire un travail vraiment très... très symbiotique presque avec l'auteur. Alors c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot parce que c'est son nom qui sera sur le titre de l'ouvrage, mais l'éditeur il va le lire 5 fois aussi, 6 fois le bouquin, et il va repasser sur chaque scène, sur ce chapitre, est-ce que tu peux pas couper telle scène, est-ce que ce dialogue, est-ce que tu veux pas le remanier, telle problématique qui est au cœur du texte, je trouve qu'elle est pas assez présente des chapitres 25 à 26, et voilà, il y a un travail de fond très très pointu pour amener l'auteur au maximum de son texte. Et des fois il y a aussi des questions un petit peu commerciales de positionnement. Effectivement, on a décidé ensemble, jamais imposé à l'auteur, hein. Mais par exemple on a décidé que ce texte on allait le publier en YA, enfin young adult. On va faire plus ressortir les thématiques young adult du coup, et du coup on va le travailler ensemble et on va faire en sorte que ce soit le meilleur livre possible, en tout cas au niveau de l'auteur. Et on va se baser sur effectivement toute l'expérience éditoriale des gens qui ont bossé sur pas mal de romans avant. Mais voilà, c'est un travail qui est quand même plus long et plus intense en général que la bêta lecture. Et c'est ça que les auteurs aussi viennent chercher quand ils vont en maison d'édition. C'est pas juste un réseau de distribution en librairie. C'est aussi l'avis d'un professionnel du livre qui va leur dire comment faire le meilleur livre possible. D'un point de vue artistique d'abord, puis éventuellement d'un point de vue commercial, si la question se pose.
Heureusement, ouais.
Mais parce qu'il y a toujours des questions de cible. Enfin, c'est pareil. Si on fait un bouquin pour la jeunesse, de faire attention à se positionner sur la bonne tranche d'âge, faire des choses qui sont cohérentes, on va dire.
Fou. C'est cher auditeuriste, parce que là, on parle à quelqu'un qui nous écoute. Oui. Hein. Et cher auditeuriste, quand vous achetez un livre. Que ça soit en poche, à 19 balles, à 20 balles, ça augmente. Quand vous achetez un livre, Imaginez donc tout le travail, et c'est un peu le but de ce podcast, c'est de montrer tout le travail qu'il y a derrière, et après aussi pour les libraires, les médiathécaires, le choix, mais tout le travail que font les bêta-lecteurs, pro ou bénévoles, l'éditeur, c'est fascinant. Moi, je m'étais jamais rendu compte de ça, je trouve ça magnifique. C'est une œuvre, et même un bouquin... qui n'est pas aussi connu, voilà, c'est pas te faire offense, Sam, c'est vrai que t'es pas dans toutes les librairies Fnac et tout ça, en premier plan, machin, malheureusement. Peut-être un jour, j'espère.
Ça va venir.
Ouais, on y croit fort. Mais chaque bouquin qui sort, il y a quelqu'un, il y a toute une équipe derrière, et moi je trouve ça fascinant.
C'est pas du tout solitaire en fait le travail de l'écriture, et alors... Je fais pas mal d'interventions scolaires et je posais souvent la question aux enfants, à votre avis, combien de temps il y a entre le moment où l'auteur a la première idée de son bouquin et le moment où le livre atterrit en librairie? Alors, il peut y avoir 15 ans, hein, Tolkien et le Seigneur des Anneaux.
Mais, c'est un cas à part. Hein, on va
voilà,
pas,
c'est un cas à part. Mais pour un auteur professionnel qui en fait sa carrière et qui, du coup, a un rendement, on va dire, un peu dicté par le rythme de l'édition. Mais souvent, entre la première idée et la sortie en librairie, on compte au moins 2 ans, en général, de travail. Parce qu'il y a au moins une bonne année de rédaction. En fantasy, si on est sur des gros volumes, hein, c'est pas la même chose en roman, c'est des plus petits volumes, par exemple. Ouais. Donc, matériellement, ça prend un peu moins de temps à taper. Mais il faut bien compter, ouais, en général, de 1 an minimum de rédaction sur de la fantasy adulte, et après 1 an de travail éditorial. Et sur le travail éditorial... Il y a beaucoup de métiers qui interviennent parce qu'on a un directeur d'ouvrage, on a une correctrice, on a une maquettiste, on a de la communication. Après, on a effectivement le service événementiel qui va aller caler les gens en festival pour que vous puissiez après les rencontrer en dédicace. Il y a des représentants littéraires qui vont faire qui vont défendre le livre en librairie. Il y a énormément de gens qui travaillent sur un livre. Un livre, c'est au moins une dizaine de personnes qui vont travailler
dessus. Mais pas tous dans la maison d'édition en plus. Il y a beaucoup de freelance.
Ouais.
Ouais. Parce que par exemple, Nemos, j'étais surpris, m'a dit maintenant, on est un couple. Ouais. La Volt, ils sont deux aussi, salariés, alors que c'est énorme. Quoi, je veux dire.
Parce que c'est très, très fluctuant. Ouais. Sur un. C'est souvent du travail très intense, mais sur une période assez limitée. Donc, il y a beaucoup de freelances effectivement qui vont travailler par projet, par livre. Parce qu'aussi les éditeurs, ils ont pas beaucoup de sous. Hein. Chez Hachette, les gens, ils sont pas tous en freelance. Il y a des gens qui sont. Mais sur la édition indépendante, c'est des choses qui sont assez particulières. Mais effectivement, la Talente, je crois qu'ils sont une dizaine. Quoi. C'est,
Et
c'est les plus gros.
Il y a la librairie aussi, peut-être. Oui,
voilà.
Donc, il y a aussi, quand il y a une librairie, il y a de l'emploi quelque part.
Ouais,
aussi.
Mais voilà, parce que je me souviens que quand. Avec AQSF. Je demandais souvent aux gens, vous pensez qu'on est combien? Ouais, on était 4 à temps plein, on était 4 dans les bureaux, plus effectivement une personne qui était détachée, notre correctrice, qui travaillait à domicile, mais qu'on n'oublie pas, mais voilà, on était 5 en fait. et je me souviens d'avoir rencontré souvent des gens en festival qui pensaient qu'on avait une tour à Paris où on était. On avait des tas de bureaux et on était 50. Et j'étais ouais. Non, on est. Enfin, je faisais souvent la blague d'on est 5 connards, enfin, on est 4 connards dans un bureau, quoi, ouais. Plus une qui est à distance. Ouais. Mais non, c'est des peut-être des petites équipes très passionnées. Mais après, on était 4, mais c'est parce qu'on était. On faisait plusieurs boulots chacun aussi.
Ouais, c'est ça.
Y a ça aussi. Il y avait beaucoup de métiers qui intervenaient, mais c'est juste ils étaient incarnés par un nombre limité de personnes.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé, de t'avoir éclairé, auditeuriste. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Sam? Quelque chose à dire? Est-ce que t'es heureux?
Oui, ça va. je pense que, pour rebondir sur la qualité du travail d'écrivain, est-ce qu'on est solitaire ou est-ce qu'il y a pas, on n'est pas seul. Je pense qu'il y a quand même un temps d'écriture qui est très solitaire. En tout cas, moi, j'ai tendance à trouver très isolé. Et il y a ensuite un temps qui est très en commun. Et quand on se rapproche de la sortie, quand on fait les corrections, quand on recontacte, on va dire, avec l'éditeur, ou on prend contact. Enfin, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et ça devient. Et c'est deux choses différentes. Enfin, c'est deux moments différents dans la production d'un livre. Et les deux sont intéressants.
Là, j'osais pas te demander comment ça s'était passé pour toi.
Alors, moi, le deuxième que j'ai écrit, ça a été très douloureux parce que c'était vraiment long. Il fait 900 000 signes, donc il est un peu épais. Et c'était très fatigant à écrire. Et à la fin, j'en avais marre.
Et à corriger, j'imagine.
Et à corriger, on a eu. Bon, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est de l'avantardisme, mais mon éditeur, il a de la chance. Je me relis beaucoup quand j'écris, donc en général, les tournures de phrases sont pas trop à reprendre.
À chaque fois qu'on en parle et qu'on me dit oui, dans l'édition, on travaille ci, on travaille ça, je tombe sur un auteur qui dit ouais, moi, c'est passé crème. Ça m'agace.
Après, ça se trouve, ils sont peut-être nuls, hein, je sais pas, mais en général, ça va. J'ai pas trop. J'ai pas besoin d'avoir
merci,
trop de.
Merci, mouton.
J'ai pas besoin d'avoir. Non, mes livres.
Je pensais
à mes livres, je pensais pas aux moutons, non. Je pensais à mes livres, ils sont peut-être pas bons. Il y a peut-être des tas d'erreurs qui passent, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de retours sur mes nouvelles non plus avec d'autres éditeurs. Enfin, je me relis énormément. Je suis très lent à l'écriture. Hein, je produis peu de mots par jour, au maximum. Enfin, je pense que je suis incapable d'écrire plus de 1000 mots par jour et pas deux jours de suite, quoi. J'écris, enfin, par rapport à des collègues, si je me compare à d'autres collègues, ce qui est pas utile par ailleurs parce que chacun a son rythme. Hein, j'écris très doucement, mais par contre, je vais peser chaque phrase longuement avant de la poser sur l'ordinateur ou sur le papier pour être sûr qu'elle soit cohérente avec ce qui la précède et ce qui va la suivre. Moi, je scande mes textes, donc j'ai besoin que toutes les syllabes tombent précisément sur le rythme que je leur ai imposé, donc c'est long. Voilà. Et ça te rend la correction difficile parce qu'il faut que ça reste dans cette scansion.
Donc, des fois, sinon, le château de cartes s'écroule si on change
Je peux pas changer certains mots parce que sinon ça ne tombera pas juste dans ma métrique intérieure, on va dire. Donc je suis relou. Voilà.
Ah, Marine, t'as envie de le lire là? Ah oui.
Moi, je dis ça comme si c'était genre un fait, mais ça se trouve personne ne le ressent à la lecture et c'est vraiment dans ma tête. Hein. Donc voilà, hein, je veux pas.
Si, ça se ressent dans la lecture.
Ah voilà, on a une lectrice.
Voilà, je l'ai lu aussi.
Ah, attention, il y a Marc Ancho. Vous êtes Marc Ancho, c'est ça?
Alors déjà, je tiens à préciser que j'en ai marre de cette blague, il faut arrêter de la faire.
Est-ce qu'il faut que je présente Marc Ancho?
En fait, ce qui est rigolo, c'est que les textes de Sam ont cette puissance qui est que le mec...
Oh, ça y est, on est parti.
Le mec fait des vers blancs raciniens quand il écrit. Et c'est même pas une blague, en fait, c'est vrai. Voilà.
Bah, il scande, quoi.
Il scande.
C'est la scansion classique.
Mais oui, pour avoir lu pas mal de ses textes, il y a une musicalité, une poésie, et c'est très rigolo parce que moi je connais quand même un certain nombre de gens. Enfin, quand je dis de l'écriture, c'est pas si solitaire, c'est parce que moi quand je suis rentré dans le milieu littéraire, il y a beaucoup des gens que j'ai connus à l'époque, vers 2018-2019, qui étaient des aspirants auteurs à l'époque, qui écrivaient dans leur coin. Et on s'est rencontrés, on s'est connus, on s'est parlé, et il y en a beaucoup que j'ai vu être édités, que j'ai vu publier leur premier livre. Et c'est toujours un moment assez émouvant quand t'as tes potes qui publient leur premier livre et qui, ça y est, sont des grands écrivains TM.
Oula, attention hein.
Et, la grande librairie, j'arrive.
Voilà. Et c'est toujours très rigolo de lire les textes de quelqu'un que tu connais avant, enfin que tu connaissais avant, parce qu'il y a des gens, leurs textes leur ressemble, il n'y a pas de souci, on s'imaginait exactement ça. Et avec Sam, j'étais tellement surpris quand je l'ai lu.
Oh, c'est ton podcast, Sam, on est bon, hein.
Alors, Sam, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui un peu une balle rebondissante parfois, tu le lances et tu ne sais pas trop où il va finir. Quand tu lances une conversation avec lui à 16h parce que t'as dit juste je passe boire un thé, tu finis la conversation, il est 23h et tu as raté.
Oui, mais tu l'as demandé en mariage, c'est autre chose.
Et tu finis par le demander en mariage et devoir dormir sur son canapé parce que de toute façon, voilà, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et par contre, ces livres, c'est pas du tout la même chose, il y a une maîtrise et un cadre qui est impressionnant. Enfin, moi, j'ai vu l'inspiration arthurienne, j'ai vu un contenu politique pertinent, il y avait un style, il y avait énormément de choses, et c'était qu'un premier roman qui avait toute cette fraîcheur, on va dire, du premier roman, mais il y avait une maîtrise qui était incroyable. Et je suis peut-être un mauvais ami, mais je m'attendais pas à quelque chose de si carré et de si de si racinien, effectivement.
Non, mais je comprends, je comprends.
Tu vas faire fuir les lectrices en disant aussi.
Non, mais c'est un vrai truc. Alors, Sam, alors peut-être que tu l'as dit en interview à l'époque. Voilà, c'est une interview qui date il y a 4 ans maintenant. Mais on discute quand même souvent sur la manière dont on écrit, tout ça. Et de mémoire, tu m'as dit que tu étais un grand lecteur de Racine et de Corneille, auteur dramatique du XVIIe siècle, je précise.
C'est un point Romain Lucazeau, ça, non?
Va te faire foutre. Et ensuite, Sam est capable de répondre à une interview, contrairement à Romain Lucazeau. travaille pour un think tank patronal, je le rappelle.
Ah, ça y est, c'est parti, je savais comment.
Et qui fait partie de la Red Team, je le rappelle aussi.
Non, mais voilà. Ça suffit, là, c'est bon. Hein, on a dit Racine et Corneille.
Donc, et donc, du coup. Ouais, Sam, tu t'as souvent dit que t'étais un grand lecteur de Racine et de Corneille et que, en fait, du coup, t'essayes d'insuffler justement cette cadence théâtrale classique du full alexandrin dans tes textes. Et effectivement, ça se sent, il y a une maîtrise absolument incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques de manière explicite?
Oui, non,
oui, l'interview est devenue à deux sens maintenant.
Oui, on s'est dit au revoir il y a un quart d'heure, mais c'est pas grave. Moi j'adore, hein, là on se régale.
Mais parce qu'il y a un truc qui est assez formidable aussi avec Sam, c'est que tu lui demandes n'importe quoi sur son bouquin, tu sens qu'il s'est réfléchi. Enfin, moi je me souviens, il y a une scène qui m'a marqué au début du Chant des Cavalières, c'est les scènes de violence en fait. Les scènes de...
Il y a de la violence.
Ouais, parce que effectivement c'est quand même des guerrières. Et du coup il y a une scène comme ça où elles se font prendre en embuscade et la violence est très rapide en fait, très courte, très. Enfin voilà, c'est pas du tout épique en mode vas-y on va sortir nos gros muscles, nos grosses épées, on va faire schling schlang schlung, ah le duel, ah tu, je vais faire ma technique secrète interdite, ah tu ne le sais pas encore,
ah,
mais tu es déjà
Navarre, la botte de Navarre. Ouais.
Voilà, donc c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste et ben en fait. Les combats à l'épée, c'est violent, c'est sale et c'est rapide. Et c'est genre, tu te prends un coup d'épée. En fait, c'était pas ta barre de vie qui a diminué de 30%, c'est tu es mort en fait parce que tu t'es vidé de ton sang et de tes organes. Et c'était une toute petite scène qui dure une page et j'en avais parlé avec ça. Mais c'était bah oui, bah, j'y ai pensé parce que je sais pas, je pense à Tolkien qui effectivement avait une aversion pour la violence et qui ne voulait pas. Faire de la violence un truc cool par exemple et c'est pour ça que les scènes de bataille sont beaucoup éludées dans Tolkien j'avais telle référence et telle référence et telle réflexion par rapport à tout ça et c'est vrai que quand on bosse avec des auteurs qui arrivent et qui ou tout est déjà à penser bah c'est pratique parce que
c'est boulot éditorial bien, ouais. Mais quel boulot voilà, avant quoi.
Et tout
force
est
de travail.
Et voilà tout est pensé mais du coup Sam il met 3 ans à écrire un roman pas un an.
Je promets, j'ai payé personne. Hein.
Ah oui, dis
il
donc.
Dit ça, il dit ça de même, j'ai personne en otage. Hein.
J'ai pas bossé pour les moutons électriques, donc en plus,
qui sait.
Bonjour. Voilà. Je vante la concurrence.
C'est ce qui fait aussi de Sam l'un de ces auteurs qu'on aime aimer et qu'on aime détester. C'est parce que.
Oh
Sam est probablement la seule personne au monde qui ne sait pas à quel point Sam écrit bien.
C'est vrai.
Alors, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je sais très bien. Ça, pour le coup, je sais très bien à quel point j'écris bien. Enfin, ne me faites pas boire pour me demander à quel point où je me classe dans une catégorie, on va dire, dans une hiérarchie imaginaire des auteurs de français. Parce que vous. Enfin, voilà.
Va me chercher deux tequila.
Mais c'est très drôle parce que Sam, il fait partie des auteurs et c'est pas le seul que je connais parce que. En fait, pour être écrivain, des fois, j'ai l'impression qu'il faut à la fois avoir un ego surdimensionné parce qu'on se dit, je vais écrire des trucs, je vais passer 3 ans dans ma chambre à écrire des trucs et ça va intéresser des gens.
Ouais, c'est
donc, et c'est formidable. Heureusement qu'il y a des gens qui sont assez fous pour faire ça parce que sinon, moi, j'aurais rien à lire. Et en même temps, c'est toujours des gens qui doutent beaucoup parce qu'ils viennent de passer 3 ans avec eux-mêmes à se parler tout seul et du coup, effectivement, ça fout le doute.
Ah oui,
et du coup, il y a beaucoup d'auteurs, quand je leur parle, il y a un peu pas de nuance, c'est à 14h tu leur demandes, ils disent t'es sûr, je suis le prochain prix Nobel, et à 16h30 ils disent non mais je suis tellement une merde, mais un élève de CP il écrit mieux que moi, c'est pas possible, mais vous m'avez jamais lu en fait pour dire que c'est bien, mais ou alors on vous paye.
Ça c'est la vérité, c'est ce qui se passe.
Et Sam c'est vraiment pas le seul, c'est vraiment la plupart des auteurs que je connais avec qui j'ai pu bosser, des gens qui sont genre vraiment. Ouais non, je fais mon boulot, je pense que je suis ok tiers, ça va, ça existe pas, ces gens ils sont pas auteurs.
Enfin,
il y en a quelques-uns probablement, parce qu'il y a des auteurs de tout type qui existent, mais...
Mais vraiment... ça c'est une leçon pour les auteuristes en devenir, faut y croire à fond quoi. Si on n'y croit pas, on y arrive.
Si vous croyez, vous êtes votre premier lecteur, si vous aimez, enfin si vous croyez déjà pas, votre texte c'est mort, un éditeur il croira jamais.
Ouais, faut pas perdre son temps. Ouais.
Moi je pense que c'est ce qui, enfin si on me demandait qu'est-ce qui fait un auteur, c'est vraiment pas la publication, la non-publication, c'est juste est-ce que on écrit. Est-ce que je me mets devant mon texte et je le produis. Et après, la qualité du texte, la publication ou la non-publication, la lecture par d'autres personnes que soi-même, ça c'est secondaire dans qu'est-ce qui qualifie pour moi un écrivain.
D'accord.
Un écrivain, c'est quelqu'un qui s'assoit devant son texte et écrit. Et après, évidemment, quand on écrit, on passe par cette phase de est-ce que je suis un génie ou est-ce que je suis sous merde. Et je pense que c'est effectivement très difficile de trouver l'équilibre, mais enfin c'est le enfin faut trust the process quoi, c'est voilà, ouais, c'est le processus, c'est normal.
Bon, super. Je pense qu'on a fait une belle émission, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était chouette, ça finit avec des grands sourires. On a tous la banane. Merci, merci Gabi d'avoir animé. Merci Sam, merci tout le monde,
merci.
Les copines.
Merci.
Et puis vos rires vont m'enchanter au montage. Je vous le dis. Merci beaucoup, à bientôt. Et eh ben c'était super.
Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture.
Galaxy Pop.
Eh, vous êtes sûr qu'elle sent fraîche?
Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture?
Elle est belle ma pop culture. Elle est belle. Venez, venez.
Elle est bonne ma pop culture.
Galaxy Pop. Viens, on va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.